Bien, les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Lucky Luke.
La violence s'est emparée de Daisy Town et risque de l'étouffer. Pour sauver la jeune cité, il faudrait un homme courageux, un homme honnête, un homme capable de faire triompher la justice et ramener la paix. Cet homme, le voici. Cet homme, c'est Lucky Luke. Et il n'est pas seul, bien sûr. Je l'accompagne, moi, son cheval fidèle, Jolly Jumper.
Si c'était à refaire, disait Maurice qui créa le personnage, je le ferais encore plus décalé. Mais voilà, la piste du succès étant ce qu'elle est, on ne peut pas changer d'équipage comme ça en cours de route. D'ailleurs, en 2001, au passage de relais après la mort de Maurice, le dessinateur HB a repris les rênes d'une main sûre. Pas question, par exemple, comme pour Alix, après la disparition de Jacques Martin, de laisser Lucky Luke prendre de l'âge. Il aurait même plutôt tendance à perdre du poids pour soulager Johnny Jumper, sans doute, et pour qu'elle hennisse de plaisir. Si le cow-boy demeure impavide et intrépide, en revanche, il reste au scénariste la possibilité de lui ménager les situations les plus diverses. Jules, dans l'album de son 70e anniversaire, je parle de celui de Lucky Luke, lui fait même retrouver son rôle de gardien de troupeau. Puis, il va accueillir à Saint-Louis les Sternes, venus tout droit du Yiddishland et désireux d'aller vers l'Ouest. Hommage indirect à Goscinny, dont une partie de la famille avait quitté la Pologne. Lucky Luke avait déjà rencontré très tôt nombre de Chinois et même grâce à un coup de pouce d'une compagnie pétrolière, un cheikh arabe, mais on n'avait encore jamais vu dans ses albums le peuple du livre aller vers le peuple du Colt. Comment sont ces juifs, demandent les badauds à l'arrivée du vapeur. Eh bien, ils ressemblent à des Amish, mais ils sont très cultivés, leur est-il répondu. Dans la terre promise, Lucky Luke va aussi apprendre à ses dépens que la carpe farcie de Madame Stern lui a fait prendre une taille supplémentaire dans son jean Lévi-Strauss, évidemment.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Jules, bonjour.
Bonjour.
Ne dissimulez pas, quand vous étiez enfant, vous rêviez d'être professeur d'histoire ou professeur de chinois au lycée de Pichipoy, au lycée de Popoco Pueblo, au lycée de Carson City, ou bien d'un jour dessiner des Lucky Luke. Vous aviez déjà dans la tête des albums de Lucky Luke?
Moi, j'étais, en termes bourdieusiens, destiné à être prof. Hein. Mes deux parents sont profs, j'ai mon frère qui est prof, j'ai failli être prof, je l'ai été même très brièvement. Mais en fin de compte, évidemment, j'étais fait pour faire du dessin. Et j'ai continué depuis ma plus tendre enfance à faire, à commenter le monde qui m'entourait en dessin, en faisant du dessin un peu satirique, d'humour. C'était plutôt ma veine et mon tempérament, je dirais. Et effectivement, j'ai basculé à travers tout un parcours du dessin de presse vers la bande dessinée et jusqu'à effectivement aujourd'hui cette espèce de reprise d'un héritage tutélaire qui était Goscinny, dans lequel j'ai quasiment appris à lire en reprenant les rênes de Lucky Luke.
Donc entre le bac et l'agrégation, parce que vous avez quand même passé une agrégation d'histoire, c'est pour ça que vous êtes invité à la marche de l'histoire.
Ah voilà, il ne vous montrait pas de blanche.
Une licence, au fond, parce que c'est une licence que vous avez obtenue des ayants droit de l'éditeur de Lucky Luke, et Maurice. Parce que on vous voit assez bien dans le rôle de Goscinny, qui est devenu le scénariste de Maurice au milieu des années 50, au bout de plusieurs années déjà d'existence de Lucky Luke. Et Maurice, comment vous le voyez? J'ai lu, faut être savant, hein, vous parliez de Bourdieu. J'ai lu que c'était un chaînon manquant entre l'homo dessinatus belgicus et l'homo americanus comicus.
Mais oui, il a réussi cette fusion extraordinaire. Lui, c'était un fanatique des États-Unis à une époque où finalement l'Europe somnolait un peu. Bon, il y avait Tintin, qui était voilà la figure de la BD franco-belge, mais d'ailleurs surtout belge. Et Maurice, qui a beaucoup voyagé aux États-Unis, qui a habité pendant plusieurs années là-bas et qui était un énorme boulimique de western, de production hollywoodienne, a opérer cette fusion-là en créant une figure finalement universelle. Parce que c'est un cow-boy, mais ce premier cow-boy est européen. Et finalement, nous, toute une vision de plusieurs générations, évidemment, de Français, mais aussi d'Européens, a ouvert une fenêtre sur l'Amérique à travers ses aventures de Lucky Luke, qui était finalement burlesque et qui était déjà du troisième degré, puisque c'était une parodie du western hollywoodien, qui était lui-même une parodie de ce qui était vraiment l'Ouest sauvage.
C'est aux États-Unis que se rencontrent Maurice et Goscinny. Vous diriez que Goscinny a ouvert davantage Lucky Luke sur un horizon à la française, où c'est le passage du héros des éditions Dupuis aux éditions d'Argot en plein 68.
Oui, Goscinny, c'est l'arrivée de Goscinny change un peu Lucky Luke. Au départ, Lucky Luke, c'était un personnage vraiment dans la lignée des cartoons américains, des dessins animés, un personnage où il avait parfois quatre doigts, il était un peu en très élastique, et puis il avait beaucoup d'aventures palpitantes, des attaques d'indiens, des bagarres dans les saloons, et ça fonctionnait très bien. C'était un univers extrêmement cohérent et très innovant graphiquement, quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans les publications pour la jeunesse. Quand Goscinny arrive, et ben tout d'un coup, il apporte aussi un autre univers, peut-être une forme de profondeur, en tout cas de chambre d'écho, qui fait que tout l'âge d'or de Lucky Luke, ben c'est cette association Maurice et Goscinny, extraordinaire. Il avait le don des duos avec Uderzo pour Astérix, avec Sempé pour le petit Nicolas, et Goscinny, voilà, c'était un peu un magicien au scénario pour tous ces héros qui tout d'un coup prenaient une dimension. Et puis, alors il y a le passage Dupuis d'Argot, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, les lecteurs de Lucky Luke connaissent la partie avec les albums souples de chez Dupuis, et puis les albums en dur cartonnés de chez d'Argot. Mais c'est pas seulement juste la forme qui change, il y a aussi à ce moment-là qui ce passage au cartonné, c'est aussi tout un âge d'or puisque Lucky Luke se voit doté, c'est pas plus vraiment un cowboy solitaire, parce que déjà Jolly Jumper, qui était là au départ, son cheval, devient un être réellement parlant et agissant, prend plus de place, et donc il y a une espèce de dichotomie. Moi j'ai toujours l'impression que Lucky Luke c'est un centaure avec une forme de surmoi sur lequel il chevauche bizarrement, et Jolly Jumper alors que Lucky Luke est un personnage moralement irréprochable, de justicier, qui finalement pourrait presque paraître prévisible à certains moments, mais Jolly Jumper vient mettre de la disruption, et c'est lui qui râle, c'est lui qui fait la grève, c'est lui qui est pas content, c'est lui qui fait les mots d'esprit et les lapsus. Voilà, donc
disruption,
c'est...
mais vous savez bien qu'il y a dans le monde régi par la protection de la jeunesse, loi de 1949, contemporaine à peu près de la naissance de Lucky Luke, de la convention. Et puis les conventions vont grandissant aussi avec ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, d'une formule un peu automatique, le politiquement correct. Lucky Luke, au début, il tenait d'une main son pistolet, de l'autre la cigarette qu'il roulait comme Gary Cooper, et puis bien d'autres interdits sont venus progressivement, ainsi qu'en témoigne Maurice.
À l'époque où nous faisions ces dessins animés en Amérique pour la télévision, et qui étaient destinés aux enfants, attention, hein, c'était pas le même public que les albums. Il y a eu d'autres restrictions aussi. Par exemple, les Chinois qui ne pouvaient plus tenir de blanchisserie, c'est ridicule. Ou les Indiens qui ne pouvaient plus parler du mauvais anglais. Et les Mexicains qu'on ne pouvait plus représenter endormis, sous prétexte que ça voulait insinuer qu'ils étaient paresseux.
Du temps voyou, Barbel. Égare à toi si c'est pas du bon.
Oh oui, monsieur Dalton. La meilleure bouteille, monsieur Dalton. Voilà, monsieur Dalton.
Dans les albums, je lui donne encore de temps en temps de la bière ou de l'alcool, mais dans les films d'une demi-heure chaque fois, non, pas question, c'était de la limonade qui buvait dans ce film. Hein. Mais de temps en temps, on arrivait à arranger ces restrictions à notre avantage. Par exemple, les Indiens qui ne pouvaient plus parler du mauvais anglais, ce qui était pourtant la règle générale dans les westerns, on en a mis un dans ces films qui parle un anglais d'Oxford parfait. C'était très drôle, évidemment.
C'est un grand plaisir de contourner l'interdit.
Oui, en fait, de toute façon, la bande dessinée a toujours conservé des héros qui étaient à la fois malicieux et insolents. Et là, ce dont Maurice parle, c'est vraiment cette espèce de censure qu'il peut y avoir dans l'audiovisuel. Et on s'en rend bien compte, le passage à la télévision, le passage au cinéma, en ouvrant peut-être un public un petit peu plus vaste, fait qu'il y a plein de normes. Mais la bande dessinée, comme il le raconte, est toujours restée fidèle à ces fondamentaux-là. La seule chose dont on fait, en général, des gorges chaudes, c'est la disparition de la cigarette dans les années 80. Ça venait d'ailleurs d'une interdiction venant du cinéma et de l'animation, notamment des États-Unis. Mais en fin de compte, c'est rentré dans une espèce d'air du temps, et puis ça correspondait finalement aujourd'hui à l'esprit d'un temps. Mais Lucky Luke, aujourd'hui, et tout au long de ses aventures, a continué à picoler, a continué à se battre à coups de pistolet. Il n'y a pas vraiment de mort et de sang, mais malgré tout, ça défouraille pas mal.
Je parlais de la licence que vous avez d'une certaine manière obtenue. La licence ne permet pas toutes les licences. Quelles sont les limites? Comment les choses se passent-elles? Passez-vous un examen devant les ayants droit?
Non, c'est un peu tacite. À vrai dire, il y a un contrat qu'on signe quand on reprend Lucky Luke et on s'engage à ne pas mettre à mal, ne pas endommager l'image du personnage et de la série. Puis ça reste très vaste. Donc à la rigueur, s'il y avait une censure puissante qui s'exerçait, ça pourrait aller dans toutes les directions. Mais en fin de compte, moi, on m'a laissé vraiment les rênes de la diligence et j'ai pu aller dans la direction dans laquelle je voulais. Il n'y avait pas d'interdit. Alors il y a des trucs, finalement, implicites. Un Lucky Luke nazi, un Lucky Luke pédophile, un Lucky Luke qui tout d'un coup verrait ses mœurs glisser irrémédiablement et qui du coup endommagerait les albums suivants aussi, parce qu'il faut toujours se projeter vers l'avenir. Il y a dans un album qui, je dirais, dynamiterait tous ses codes, serait problématique. Mais en fin de compte, les questions justement, rire de sujets de religion, de société, mettre un peu d'humanité dans Lucky Luke, ce que moi j'ai essayé de faire aussi, c'est-à-dire de dire que c'est pas juste un personnage, une face de marbre, un personnage du musée Grévin, mais qui se met en colère, qu'il ait du désir, de l'envie, du dépit. Ça, je pouvais le faire.
Vous soumettez juste un synopsis ou l'ensemble? Parce que on parlait de Chéreau il n'y a pas longtemps, quand Chéreau et Boulez travaillaient ensemble pour l'adaptation du Ring, Chéreau ne veut rien dire encore aux ayants droit Wagner. Et Boulez lui dit, mais donne-leur un texte. Et vous donnez juste un synopsis, vous?
Je donne un synopsis. À vrai dire, d'abord j'évoque un thème, et puis on voit si ça prend ou pas, si les gens se marrent, si on se dit on va partir là-dessus. Ensuite, j'ai pas mal de liberté pour raconter vraiment mon histoire. Et puis il y a des lectures croisées. Lucky Luke, c'est important. Lucky Luke, c'est patrimonial, c'est des tirages pharaoniques. Plusieurs éditeurs suivent la fabrication de ce livre. Il y a une navette avec le dessinateur, qui est lui aussi un autre gardien du temple et avec lequel il faut dialoguer.
Retranché dans le Gers.
Voilà. Parce que c'est ça, HD, lui, ça fait plusieurs années qu'il a repris Lucky Luke, vraiment dans la filiation de Maurice, avec ce trait comme ça, vraiment extrêmement proche. Il connaît plein de choses sur l'histoire du western et sur les codes de Lucky Luke. Et puis la famille belge de Maurice, celle qui était sa femme, qui sont là, qui sont encore des lecteurs, et à qui il faut raconter les choses. Et en fin de compte, il y a une forme de bonne intelligence qui se met en place, mais moi j'avais peur finalement d'être censuré, j'avais peur d'avoir vraiment des fers aux pieds, et en fin de compte, même tout ce qui a pu faire au départ grincer des dents, ou un peu surprendre, a été accepté à force de discussion et de, je dirais, de mise en perspective et de contextualisation.
N'empêche, il y a des personnages qui échappent davantage aux conventions initiales. Alix de Jacques Martin, il a près de l'âge, il a les cheveux blancs. Et Spirou, il est infiniment plus libre.
Oui, en fait, chaque grand personnage, chaque grande série a une destinée singulière. Il y en a qui, dont les ayants droit disent qu'il ne faudra jamais les reprendre, ils n'auront pas de postérité. D'autres, on essaie de les faire évoluer. C'est une forme de spin-off. Alix Sénator, dont vous parlez, voilà, il a vieilli, mais c'est encore une autre bande dessinée. Ça parle d'autre chose. Spirou, depuis le départ, de toute façon, c'est un personnage qui a sauté d'un auteur à l'autre tout au long de son histoire. On se souvient de Franquin, mais il y en a eu plein d'autres. Et Spirou, surtout, ça se passe au XXe siècle. Donc, il évolue avec la technologie. C'est vite ringardisé. On voit bien les films du XXe siècle avec les gens qui ont des gros téléphones portables géants, des gros ordinateurs. C'est pareil pour Spirou. Lucky Luke, il est intemporel. C'est le western. Le western, on va pas tout d'un coup se mettre à avoir de la téléphonie mobile au milieu de la grande plaine. Donc, l'univers reste cohérent. On n'a pas besoin de faire du jeunisme. Et en même temps, faut pas non plus, c'est le problème des reprises, faut pas faire du vintage, faut pas faire du violer le duc de la bande dessinée. Il faut que ce soit un Lucky Luke d'aujourd'hui, par ses thèmes, par son langage, par son rythme, mais sans sacrifier, je dirais, une espèce d'effet de mode.
Avec des figures imposées que vous acceptez, le pont, le saloon, le vapeur sur le fleuve, avec un tri entre les personnages. Vous n'aimez pas les personnages qui ne sont pas intelligents, en fait, Jules. Ni Rantanplan, ni les Dalton.
Oh, il y a pas mal de gangsters stupides, quand même, dans l'album sur lequel j'ai travaillé. Mais ces grands personnages secondaires qui ont été magnifiés par Goscinny, les Dalton, Rantanplan, et puis tous les autres, Billy the Kid, Calamity Jane, ont été précédemment utilisés à outrance. C'est un peu utilisé hors de propos. Moi, parce que je les adore, je préfère les garder et les faire sortir de leur tanière à bon escient. Le pénitencier ouvrira ses portes quand il sera temps. Et là, c'était pas encore l'heure.
Mais il n'y a pas de musique ici.
parler, les Dalton.
Après la musique.
Je vous en prie, c'est un piano très cher. Il vient de San Francisco.
Silence ! Rabbi Jacob, elle va danser !
De l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Bon, maintenant que la musique est finie, je t'écoute, cow-boy.
Et dans le rôle principal, aujourd'hui, Jules, scénariste du nouvel album de Lucky Luke, La Terre Promise, avec un double défi, Jules. C'est important, l'histoire des Juifs dans l'Ouest, ça n'était jamais apparu dans les albums de Lucky Luke. Et deux, on peut en parler librement, alors qu'on entend tout le temps dire que le film Rabbi Jacob, par exemple, ne serait plus possible aujourd'hui. Alors on commence par la première partie du défi, les Juifs dans l'Ouest.
Ben oui, parce que c'était quand même un sacré morceau de la mosaïque, de la grande légende du mythe américain, d'avoir oublié cette communauté. Hein. Les autres avaient été plus ou moins abondamment traités dans ces aventures de Lucky Luke en 70 ans. Et il manquait cette communauté-là. Alors, mystère, hein, on ne sait pas exactement la raison de cette absence, mais... On ne peut pas s'empêcher de penser que Goscinny, justement, qui était celui qui a introduit toutes ces satires et cette mise en scène des préjugés, des clichés sur les communautés, on parlait tout à l'heure des Chinois, des Mexicains, etc., était passé à côté de ça. Lui, c'est son histoire, en fait. Hein, La Terre Promise, cet album, ça raconte l'histoire de Juifs d'Europe de l'Est qui essaient de se créer un meilleur destin dans le Nouveau Monde. Et c'est ça, l'histoire des Juifs américains au début.
Tous ashkénazes
au début, quasiment, évidemment, venant du Yiddishland au sens large, à cheval sur tellement de frontières. Il y a les pogroms russes, il y a aussi des conditions de vie difficiles. Il y a beaucoup d'Allemands au départ. Mais ils sont arrivés du côté de l'Ouest petit à petit. Mais moi, c'était important d'avoir une documentation historique et d'être un peu assis sur des bases véridiques pour ensuite bâtir une histoire burlesque. Cette famille Stern, comme ça, le grand-père religieux, la grand-mère un peu possessive, évidemment, le gamin qui prie plus vite que son ombre, la jeune fille à marier.
Et voilà, les parents figures qui ont disparu, tués par les Cosaques, parce que
c'est ça,
il y a des fantômes de Cosaques là, dans l'Ouest.
Il y a toujours un peu une ombre tragique. Hein. Bon, c'est un peu le destin de cette communauté. Mais en même temps, l'histoire américaine des Juifs est plutôt une histoire heureuse. Il y avait quelques séfarades perdues dans les confins de la plaine aussi, notamment un des premiers grands photographes de la conquête de l'Ouest, hein, qui était avec ses plaques de verre, son appareil photo à chambre. C'était un Juif séfarade, justement, qui a fait plein de photos, mais c'était vraiment des grandes exceptions. Puis les Juifs étaient très rares. C'est-à-dire que ce qui est marrant dans Lucky Luke sur lequel j'ai travaillé, c'est de mettre en scène justement cette rencontre d'univers qui s'était jamais croisé. Hein, et puis on les prend pour des amis, grand chapeau noir, grande barbe, caftan. Personne n'a jamais vu, personne ne sait ce que c'est qu'un juif orthodoxe. On connaît l'histoire de Moïse, on connaît la Bible. Ben, c'est Let My People Go, ben, tout le gospel et toute la culture noire américaine est baignée de ça. Mais cette dimension terre promise et cet appel finalement du grand ailleurs, c'est vraiment un trait qui a marqué cette communauté juive et qui s'est implantée petit à petit.
Premier défi que vous voulez relever et le second. C'est pas facile, on est sur le fil, dites-vous, en permanence. Alors peut-être pourrait-on refaire Rabbi Jacob, mais... Quand Lucky Luke et Jolly Jumper accueillent la famille qui descend du vapeur avec ses livres et ses souvenirs des persécutions des Cosaques, « Excusez-moi, » demande Lucky Luke à un badaud là, qui attend lui aussi le bateau. « Vous sauriez comment distinguer un juif ?»« Oui, » ajoute Jolly Jumper, « parce qu'un Cherokee, un Apache, on voit, mais là... » Alors, c'est là que vous êtes sur le fil.
Eh oui, parce que...
Comment répondre à ça ?
C'est ça, il fallait être foncé dans le cliché, aller dans le préjugé, ne rien éluder, pas édulcorer, et en même temps, le mettre en scène d'une manière un petit peu paradoxale. Donc là, il répond « Bah oui, un juif, c'est comme un Américain, mais en plus pessimiste. » Puis l'autre mec à côté dit « Ah ouais, bah c'est des sortes de Français, en fait. » Et l'idée, justement, c'était de, parfois, prendre un mot pour un autre. Cette astuce avec les Amish et cette confusion qu'il peut y avoir, justement, parmi les gangsters, parmi les gens dans les saloons qui voient arriver cette famille, ça permettait d'aller loin en utilisant des choses qui étaient dans le patrimoine culturel commun, dans un héritage historique. L'humour Amish, il n'y a que les Amish qui peuvent le comprendre. Moi, les Amish... je les reconnais, je les sens. Toutes ces choses-là qui peuvent faire dresser le poil sur la tête avec justement tout le destin.
Oui, et quand Lucky Luke dit, vous savez, la carriole sera inconfortable, et Moïse, le grand-père, qui dit, bah, nous sommes des spécialistes de l'inconfort du voyage.
Voilà, alors c'était à la fois une figure, la figure du juif errant en général et de la diaspora, mais évidemment avec ce truc qui est en filigrane, les deux grandes questions qui occupent les esprits de tout le monde et qui font que, peut-être au-delà même de la religion, et je dirais de l'humour sur les rituels, sur le culte et tout, qui finalement sont, du côté de la communauté juive, relativement faciles à aborder. Ben, d'un côté, il y a la Shoah, et de l'autre côté, il y a le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas d'anachronisme dans Lucky Luke, on n'allait pas parler de ça. Mais en même temps, on ne pouvait pas dire que ça n'existait pas. Donc on fait quelques petits signes au lecteur à travers les siècles, en disant, voilà, bah, la Shoah, il y a quelques petits exemples. Cette ville qui s'appelle Pitchipoy, la ville des Desperados, ce qui veut dire, c'est la traduction du Nothing Gulch traditionnel des villes de Lucky Luke, hein, la ville de nulle part, la ville de rien. C'est ça, c'est comme ça qu'on le dit en yiddish, mais c'était aussi le surnom, par antiphrase, d'Auschwitz. De la même façon, sur le conflit israélo-palestinien, quand on les voit partir vers les territoires indiens occupés par les Blackfoot, ça fait un petit peu peur à la cavalerie. Ils disent, c'est bizarre, on n'a jamais vu de juifs dans les territoires indiens. Des colons juifs dans les territoires, mais non, vous avez trop d'imagination.
Alors c'est le moment où après donc avoir passé par le saloon dangereux de Pitchipoy, la nécessité s'impose peut-être d'avoir un accompagnement de la cavalerie, comme dans la chevauchée fantastique, puisqu'on arrive sur le territoire disputé.
Allô ? En voiture pour Dry Fork, Apache Wells, Lees Ferry et Lordsburg.
On va vous accompagner jusqu'à Dry Fork. Ensuite, un détachement de cavalerie vous conduira jusqu'à Apache Wells. À Apache Wells, vous trouverez une autre escorte pour Lordsburg. Les voyageurs poursuivent leur route à leurs risques et périls, il faut leur dire.
À leur risque ? Que se passe-t-il donc, lieutenant ?
Geronimo.
Geronimo, on rentre alors ?
Reste tranquille, toi.
Naturellement, l'armée est chargée de vous protéger, mais notre devoir est aussi de vous mettre en garde.
Cette diligence va à Lordsburg. Si vous pensez qu'il est dangereux de nous accompagner, nous irons sans vous, enfants de troupe.
J'ai des ordres précis, et je les exécute, monsieur.
Ces Indiens, c'est pas les Indiens de Geronimo, mais ils sont attachés comme lui à la volonté de défendre leur territoire face aux colons, même juifs, ce sont les Blackfoot. Alors vous avez joué là-dessus aussi, Jules.
Oui, en termes de géographie, c'est comme en termes historiques. C'est sérieux, Lucky Luke. Hein. On s'amuse de plein de choses, mais du coup, quand on fait traverser des personnages, quand on fait traverser le sud Dakota, on regarde quelles sont les tribus qui habitent vraiment, et puis j'ai découvert que c'était la tribu des Blackfoot, aujourd'hui encore. Et Blackfoot, en français, c'est les pieds noirs. Quand on balance une famille d'Ashkénazes comme ça, inadaptée à l'ouest, sur le territoire des pieds noirs, eh ben ça fait une rencontre assez rigolote de possible. Donc justement, ces Indiens dont on parlait tout à l'heure dans le témoignage de Maurice, qui parlent une espèce de sabir incompréhensible. Là, à la place que ce soit des bunga bunga comme ça proférés au hasard, eh ben, leur sabir qui peut-être pour un lecteur rapide de cet album de la Terre Promise leur paraîtra juste un peu du petit nègre version indienne, c'est une série de plats juifs d'Afrique du Nord. Keila, Melouchia, Msoki, Tchekchouka. Et en fait, voilà, on s'en rend compte ou pas, mais on avance. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé, finalement. C'était truffer à la fois cet album de plein de références et de plein de niveaux de lecture pour qu'à tous les âges, on puisse se marrer. Les enfants qui voit ces Indiens un petit peu volubiles et finalement qui chantent « Ah, quels sont jolis les squaws de mon pays » et qui mangent du pemmican boulette et du pemmican merguez, ils les trouveront drôles et un peu dans la lignée des Lucky Luke traditionnels. Et puis peut-être qu'un adulte, il dira « Ah mais oui, en plus, ça parle aussi de cette rencontre-là. »
Mais c'était essentiel chez Maurice, ces deux niveaux de lecture, surtout quand il a commencé à travailler avec Goscinny. La lecture rapide, comme vous dites, et la lecture plus attentive aux clins d'œil, aux citations, ça en devient pas un peu sérieux ?
Non, parce que en fait, le mot d'ordre, la seule consigne, on parlait tout à l'heure de la licence Lucky Luke, c'est que ce soit de l'aventure et que ce soit super drôle. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. On tend vers ce modèle-là, hein, établi par ce canon de Maurice et Goscinny. C'est-à-dire qu'on tourne les pages et qu'on veuille savoir ce qui va vraiment se passer à la suite. Moi, j'ai l'habitude, dans mes séries, par ailleurs, Silex and the City, de faire beaucoup de gags, et c'est toujours une série de sketchs un peu, et la narration est un prétexte. Là, il faut qu'il y ait un suspense, qu'il y ait des personnages forts, et qu'on suive, qu'on s'attache à eux. Et puis, effectivement, toutes ces références-là, moi, ça m'intéressait, c'est-à-dire que j'avais pas envie de faire des Lucky Luke qui soient juste pour les petits-enfants, et en même temps, je voulais pas qu'ils soient laissés au bord de la route, qu'il y en ait pour eux, mais que leurs parents, leurs grands-parents retrouvent justement cette profondeur historique, culturelle. Alors, certaines personnes verront juste des blagues rapides sur les clichés, sur les juifs, la mère juive, le vieux religieux, mais justement, si on creuse, il y a plein d'autres échos à des choses de notre culture et qui nous importent.
Silex and the City, 7e album, 1er janvier, c'est la diffusion de la dernière série de l'adaptation pour la télévision. Le dernier album, le 7e album, Migrant préhistorique.
Ah oui, exactement. Bah, le 7e, c'est finalement, c'est presque en parallèle avec aussi ce Lucky Luke, qui est une histoire de migrants, hein, la Terre promise. On peut le généraliser, hein, ce thème, à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous en Méditerranée. Et puis, comme Silex and the City commente l'actualité version préhistorique, je pouvais pas ne pas m'emparer, de pas mettre au centre ce thème-là. Donc ça s'appelle Pulp Fiction, et c'est l'histoire d'un petit céphalopode qui fuit l'état jurassique en Irak et au Levant, et pour émigrer à l'âge de pierre, et la famille .com, qui est la famille de Silex and the City, l'accueille dans sa grotte. Donc c'est vraiment, on est dans cette thématique un peu tragique, et pour la première fois, c'est un album qui est plutôt marrant, mais qui est un peu triste aussi, enfin en tout cas, qui a une dimension tragique plus profonde, je dirais.
Et vous ne pensiez pas intégrer cette image des migrants, ni dans Lucky Luke quand vous avez commencé à le préparer, ni dans Silex.
Vous savez, non, c'est étrange. Je me suis dit, ça va être marrant, une rencontre entre les Juifs et Lucky Luke. Ça va être très burlesque. Dans Silex and the City, je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité? Alors, je parle de la victoire du front néandertal, des choses comme ça. Mais, finalement, je me rends compte à quel point ça nous hante. Et finalement, c'est sans doute une des questions pivots du monde qui nous entoure. Et donc, quand on est historien probablement, mais quand on est humoriste, quand on est créateur, je pense que, et qu'on est en résonance avec le monde, passer à côté de ça, c'est faire preuve d'une espèce d'aveuglement dingue. Donc voilà, histoire que ça ne serve pas non plus complètement à rien, qu'on se marre, mais qu'on ait peut-être avancé vers un petit peu plus d'humanité.
C'était des cavaliers solitaires, et c'est un peu, disons, normal, c'est ça le héros. Le héros ne peut pas revenir sa journée terminée chez lui, retrouver sa femme, ses enfants, ses pantoufles et la télévision.
Et puis on attend peut-être d'autres Lucky Luke sous votre signature avec celle d'HB, avec les Noirs, parce qu'ils sont souvent secondaires et muets dans Lucky Luke.
Oui, c'est prévu.
Et puis les Chinois.
Les Chinois, on les
parce
a...
Parce que vous avez fréquenté déjà la Chine depuis l'âge de 15 ans.
C'est ça, moi j'étais sinologue, hein, historien de la Chine, donc probablement on refera sortir les blanchisseurs de leur blanchisserie, et puis peut-être voir des choses un petit peu plus profondes sur ce grand peuple.
Merci à vous. C'est l'heure dans un instant de Mathieu Vidard. Qu'est-ce que vous avez au programme, notre ami Mathieu ?
J'accueille Irène Frachon, Jean-Irène Frachon, la pneumologue de l'affaire du Médiateur, et le film La fille de Brest qui sort demain sur les écrans.
Donc dans quelques instants.